Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18e.
Digne fils de l'Écosse, je suis William Wallace. Et que vois-je ? Toute une armée de mes compatriotes réunis en défiance de la tyrannie.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'Écosse devenant indépendante par amputation du Royaume-Uni, voilà bien la perspective d'un événement considérable dont nous n'avons peut-être pas encore en France pris tout à fait conscience. Il s'agit pourtant d'une éventualité toute proche, puisqu'est prévu pour le 18 septembre prochain, 18 septembre 2014, un référendum qui en décidera. Si les oui l'emportent, comme le préconise le Parti national écossais, le Scottish National Party, et son leader Alex Salmond, qui dirige depuis 2007 le Parlement semi-autonome avec le titre de Premier ministre, First Minister, si le oui l'emporte, dis-je, on ne pourra plus parler de ce Royaume-Uni dont l'Écosse fait partie, mais depuis 3 siècles seulement, ce qu'on oublie quelquefois. Une durée, en somme, assez courte au regard de l'histoire et qui laisse cheminer en profondeur dans les mentalités écossaises, en dépit de tous les effets potentiellement unificateurs de la révolution industrielle et des modernisations multiformes, la mémoire d'une profusion d'affrontements et de tout ce qu'il a fallu de guerre, de violence, de chocs d'intérêts et de passions pour que l'Écosse et l'Angleterre soient unifiées et en tout cas rapprochées. Cette mémoire-là, la conjoncture appelle à la considérer avec attention, faute de quoi on risquerait d'ignorer l'éventualité de sa résurgence qui pourrait être de grandes conséquences, y compris dans l'Union européenne, qui pourrait se trouver devant une Écosse indépendante aussi désemparée qu'une poule devant un couteau. François-Charles Mougel, professeur émérite à Sciences Po Bordeaux, mon invité, est un spécialiste reconnu de l'histoire britannique, donc fort adéquat pour éclairer des réflexions sur un sujet qui n'est pas de mince portée. Et pour lancer notre conversation, Stéphane Maxwell, qui était membre du Scottish National Party, regard croisé entre les Anglais et les Écossais.
Les deux nations ont vécu dans une égalité approximative, mais certainement les Écossais ont une image critique des Anglais. Beaucoup des Écossais voient les Anglais comme un peu, comment dit-on en français, snobbish, comme Major Thompson, un peu excentrique, peut-être un peu paternaliste vers l'Écosse et les Écossais, un peu supérieur dans leur attitude à la culture écossaise et surtout peut-être ignorant de l'identité écossaise, de l'histoire écossaise, de la culture écossaise. Les Anglais ont un grand respect pour les Écossais qui vivent en Angleterre elle-même, les docteurs, les hommes professionnels qui travaillent dans l'Angleterre. Mais les Anglais ont une attitude un peu trop supérieure entre l'Écosse elle-même et les Écossais qui ont resté en Écosse. Moi-même, je vivais en Angleterre pendant beaucoup des années. Je pense que peut-être l'image la plus critique en Angleterre vers les Écossais est l'image d'une race violente, une race de guerriers, et une race comment dit-on, alcoolique, certainement, est aussi une race qui a un complexe d'infériorité.
François-Charles Mougel, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Dagenais, merci de m'accueillir.
Vous avez entendu un propos de Stéphane Maxwell, qui était un membre du Scottish National Party, dans les après-midi de France Culture, le 16 février 1982. J'ai trouvé que ce texte était intéressant parce qu'il mêle la finesse des analyses avec la tentation d'un certain nombre de stéréotypes.
Alors oui, sur la relation antinomique entre les Anglais et les Écossais, mais je crois qu'elle est tout de même fondée dans l'histoire. Et vous l'avez rappelé, je crois que Stephen Maxwell le fait également, c'est l'importance des réminiscences. Vous avez signalé qu'il y aura ce fameux référendum, donc dans quelques semaines. Il n'est pas indifférent de se rappeler qu'il a lieu 700 ans après une victoire écossaise sur les Anglais, Bannockburn, en 1314, qui a véritablement sauvé l'indépendance et la liberté des Écossais.
On peut aussi rappeler que l'Écosse, on ne le sait pas toujours, n'a jamais été conquise par les Anglais.
Elle n'a jamais été conquise, ni par les Romains, ni par les Anglais, et que c'est finalement d'ailleurs par un paradoxe, un souverain écossais, Jacques Ier Stuart, qui est devenu le premier roi de ce qu'il a d'ailleurs lui-même nommé le royaume de Grande-Bretagne. Pas encore le Royaume-Uni, ce sera en 1707, mais en 1603, c'est le royaume de Grande-Bretagne.
C'est ce que nous allons voir plus en détail, si vous voulez bien. Mais vous évoquez Rome, on est porté à revenir aussi loin, parce qu'il y a le fameux mur d'Adrien et le mur d'Antonin qui ont marqué une limite de l'occupation romaine.
Exactement. Alors, le mur d'Antonin a été très, très peu en service. Il coupe au travers des Lowlands entre Glasgow et Édimbourg. C'est au fond marqué l'importance de cette zone de dépression au cœur de l'Écosse. Mais le mur d'Adrien correspond à peu près à l'actuel border, la fameuse frontière entre l'Écosse et l'Angleterre, et qui, dans les mentalités, dans aussi d'ailleurs tous les gestes de la vie courante, la monnaie change, le drapeau change, l'église change, c'est une frontière qui est profondément ancrée et dans les paysages et dans les mentalités. Et cette frontière, au fond, est restée pérenne pendant très longtemps. Elle a été officialisée au XIIIe siècle, mais elle existe toujours et la législation n'est pas la même encore aujourd'hui. Et on peut se rappeler que dans le domaine sportif, l'Écosse reste effectivement très souvent indépendante, déjà.
Le rugby,
le foot et bien d'autres encore épreuves sportives portent effectivement haut les couleurs, cette fameuse croix de Saint-André blanche sur fond bleu, qui est le drapeau de l'Écosse depuis le Moyen-Âge. Et c'est un des plus anciens étendards que nous connaissions en Europe. Et donc ça, on a un peu tendance à le négliger.
Je parlais des stéréotypes qui sont toujours un sujet inépuisable de curiosité et d'analyse. On peut évoquer en commençant le succès d'Astérix chez les Pictes.
Absolument.
Tous les Astérix sont fondés précisément sur l'exploitation comique, joyeuse des stéréotypes.
Oui, alors qui permet d'ailleurs de montrer la solidarité entre les peuples celtes, puisque effectivement les Bretons, les habitants de Cornouailles, les Irlandais, les Gallois... Et les Écossais, bien entendu, partagent effectivement cette culture celte, ce fond celte qui est très très important.
On retrouve aussi d'ailleurs dans l'île noire d'Hergé. Après, nous quitterons les bandes dessinées.
Alors là, on joue sur un peu la fantasmagorie des îles, des rochers découpés, de tout ce qui est d'ailleurs le nord de l'Écosse. C'est celle qui, au fond, qui était le territoire des Pictes, c'est celle qui est restée dans les mentalités et qui est exploitée à toute fin, j'allais dire littéraire, cinématographique et même aujourd'hui d'ailleurs très fortement touristique.
Rappelons, si vous le voulez bien, la dimension démographique et géographique de l'Écosse. C'est 8,5% de la population du Royaume-Uni, n'est-ce pas ? Et c'est 78 000 km².
Voilà, ça correspond à peu près à la taille de l'Autriche ou un petit peu plus aussi de l'ensemble de l'île d'Irlande.
15% de la France.
Et 5,5 millions d'habitants aujourd'hui, c'est-à-dire 10 fois moins que la population anglaise. Donc c'est vrai que le rapport démographique est défavorable à l'Écosse, si on le considère dans son ensemble. Mais sur le plan géographique, l'Écosse occupe par contre une place importante au sein du Royaume-Uni, qui ne fait que 244 000 km². Donc voilà, ça donne une impression effectivement de différence. Mais pour les Écossais, cette population et cette taille les rend parfaitement légitimes à avoir une place d'État indépendant dans l'Union européenne.
Cela les situe à peu près à la hauteur de la Norvège ou de l'Irlande ?
Oui, absolument.
L'Irlande étant dans l'Union européenne, comment
oui,
ça et la Norvège
ne l'étant pas, exactement, ou du Danemark.
N'ayant pas voulu. La Norvège n'y a pas voulu.
Il y a pour le moment.
Il y a d'ailleurs des points communs, puisque dans les deux cas, le pétrole est présent. La Norvège, à sa surprise, depuis un certain nombre de décennies, s'est trouvée soudain enrichie par le gaz et le pétrole, qu'elle gère d'ailleurs avec une infinie prudence. Et c'est le cas aussi de l'Écosse.
Alors justement, la découverte du pétrole et du gaz de la mer du Nord ont correspondu à ce réveil du nationalisme. Ils ne l'ont pas créé, ils l'ont accompagné. Et évidemment, c'est un argument important dans le débat actuel. D'ailleurs, dès le départ, dès les années 70-80, les Écossais, et notamment le Scottish National Party, mais il n'était pas seul, disaient « c'est notre pétrole ». Et il est clair que si jamais l'Écosse devenait indépendante, 85% des champs pétroliers et gaziers, selon les découpages approximatifs qui circulent actuellement, devraient passer sous souveraineté écossaise. Et on dit déjà que le droit écossais, qui n'est pas le même que le droit anglais, s'applique sur ces plateformes, ce qui tendrait à légitimer justement le caractère profondément écossais de ces ressources qui, évidemment, procureraient à l'Écosse des avantages financiers, des royalties et des possibilités industrielles considérables.
Vous nous rappelez, François-Charles Mougel, que le droit écossais n'est pas du tout le droit de l'Angleterre. Il est plus proche de notre droit continental. Cela remonte loin en arrière. Vous voyez que je vais vous guider progressivement.
Exactement,
vers l'Antiquité,
je vois votre
vers les
habileté.
Temps anciens.
Ce droit, effectivement, participe du droit coutumier, un peu selon la tradition anglaise, mais il s'y ajoute une très forte imprégnation de droit romain, que l'on pense d'ailleurs en partie due à l'influence française, qui a été souvent prépondérante en Écosse pendant une bonne partie du Moyen-Âge et jusqu'à la fin du XVIe siècle, et qui a donné donc à ce droit écossais à la fois un côté très profondément juridique, si je puis dire, de tradition romaine, et en même temps une souplesse qui vient du droit coutumier. Ce qui fait que beaucoup d'ailleurs de juristes y verraient bien d'ailleurs une ébauche de droit européen, mêlant les traditions à la fois anglaises et françaises, si on veut effectivement faire du droit romain via le droit de Napoléon, un droit continental.
Ce pourrait être un argument à Bruxelles pour accepter l'idée que rejette pour l'instant M. Barroso avec beaucoup de fermeté l'idée d'une Écosse indépendante.
Absolument, mais la commission Barroso est un peu sur sa fin, donc il faudra voir effectivement quelle sera la position de la nouvelle commission. Il est certain que c'est un cas de figure qui va se poser, qui est tout à fait inédit, puisque jusqu'à présent, aucun État ne s'est trouvé dans la situation où serait une Écosse indépendante, c'est-à-dire de faire sécession d'un État membre pour rester tout de même dans l'Union.
Alors, il faut rappeler que l'Écosse a été indépendante, a été séparée, et cela nous conduit quelque part vers le XIIIe siècle, n'est-ce pas ?
L'Écosse, que vous l'avez rappelé, et je crois qu'il faut y insister, n'a jamais été conquise par les Anglais, mais elle a eu des rapports très compliqués avec les Anglais, surtout parce que les dynasties écossaises ont été assez fragmentées dans l'histoire, énormément de minorités, d'assassinats, si on suit la lignée des souverains, elle est assez tortueuse. À plusieurs reprises d'ailleurs, et notamment dès Guillaume le Conquérant, le premier roi d'Écosse, Malcolm III, enfin ce qui n'était pas le premier dans l'histoire, mais le roi Malcolm III a été obligé d'admettre qu'il était l'homme de Guillaume le Conquérant, ce qui laisse une certaine souplesse, mais admet un lien de vassalité. Et cette vassalité a été à la fois accordée, reconnue, reprise. Le point tournant, vous l'avez signalé, c'est le XIIIe siècle, notamment donc avec ce grand roi qui a été Alexandre III.
Donc Alexandre III et puis une petite fille.
Voilà. Alors Alexandre III a monté sur le trône à 8 ans, un règne prospère, un règne bénéfique, qui sera d'ailleurs considéré comme un âge d'or. Et puis ce roi donc perd sa femme et ses enfants, cherche à former une nouvelle lignée, se marie, mais bon, emporté par son élan, et quand je dis emporté par son élan, c'est au sens précis, il part par une nuit de tempête, à cheval, culbute sur une falaise, meurt, et donc avec lui s'achève effectivement la lignée directe, puisque ce ne sera que sa petite fille, qui est la fille d'un mariage avec roi de Norvège, on l'appelle la pucelle de Norvège, qui est donc censée...
Elle n'avait que 3 ans, donc.
Elle n'avait que 3 ans. On l'appelle pour devenir reine d'Écosse. Elle meurt dans le voyage. Ce décès est d'ailleurs nommé pas seulement un terme à cette branche de la famille royale, mais surtout aux espoirs du beau-frère d'Alexandre III, le tout-puissant Édouard Ier d'Angleterre, qui pensait évidemment faire l'union des royaumes en faisant épouser cette jeune pucelle de Norvège à son fils, le futur Édouard II. Le projet, évidemment, achoppe. C'est Édouard Ier qui va jouer un rôle important dans ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire trouver un véritable souverain accepté par l'ensemble des Écossais.
Et ça, c'est la guerre d'indépendance qui est encore très présente dans la mémoire contemporaine.
Alors, vous avez raison, il y a 13 candidats. Édouard Ier prend d'abord soin de se faire reconnaître comme suzerain de l'Écosse, c'est-à-dire donc de se donner un droit légitime, non seulement à décider du souverain, mais à intervenir dans les affaires écossaises.
Problématique qui est toujours actuelle.
Absolument. Il choisit donc un candidat relativement falot, John Balliol, qui l'humilie, qui le traite en véritable valet, plus qu'en véritable vassal. Mais ce John Balliol va se révolter et en 1295, eh bien, il va commettre ce qui, pour effectivement les Anglais, est inadmissible. C'est que, au lieu de suivre son suzerain dans les affaires continentales, il va s'allier avec l'ennemi de ce suzerain, la France, de Philippe le Bel. Et c'est le début de ce qu'on appelle l'Old Alliance, la vieille alliance, qui va durer près de 3 siècles, entre effectivement les Écossais et les Français.
Et c'est la première guerre d'indépendance.
Alors, la première guerre d'indépendance...
Il faut s'arrêter un instant parce qu'elle est vraiment la matrice de beaucoup
Elle est la matrice. Pourquoi la guerre d'indépendance? Eh bien, parce que suite à son acte de bravoure, si j'ose dire, John Balliol a été déposé par Édouard Ier, qui est parti avec la pierre du couronnement, qui va figurer pendant plusieurs siècles dans le trône des souverains anglais. L'élimination de John Balliol ouvre une sorte de vide. Et les Anglais pensaient le remplir, ce vide.
Mais surgit William Wallace.
Alors William Wallace, c'est un petit gentilhomme. Il n'appartient pas à un milieu populaire. C'est un petit gentilhomme terrien, mais qui va catalyser les énergies de l'ensemble du peuple écossais.
Il a été dépeint dans un film qui a eu beaucoup de succès, le film de Mel Gibson, qui tient lui-même le rôle de William Wallace. Vous allez nous éclairer tout cela, François-Charles Mougel. Mais d'abord, écoutez cet extrait.
Dit, il semble que cette bataille soit de la dernière élégance. Elle a attiré les gens les plus aimables.
C'est ainsi qu'on salue.
Pour vous être présenté en personne sur ce champ de bataille, je vous remercie.
Ceci est notre armée. Si tu veux t'y joindre, rends d'abord hommage.
Je jure foi et hommage à l'Écosse. Et si ceci est votre armée, pourquoi tourne-t-elle les talons?
On n'est pas venu ici se battre pour les nobles.
On n'est pas venu pour ça.
Non, c'est le peuple qui s'aime.
Tu as vu combien nous sommes? Les Anglais sont trop nombreux.
Digne fils de l'Écosse, je suis William Wallace.
William Wallace fait 7 pieds de haut.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein. Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. Je suis William Wallace. Et que vois-je? Toute une armée de mes compatriotes réunis en défiance de la tyrannie. C'est en homme libre que vous êtes venu vous battre. En homme libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté? Il faut se battre!
Non, on n'aurait aucune chance!
Contre ces troupes? Non! On préfère fuir! On préfère vivre!
Oui! Battez-vous et mourrez peut-être. Fuyez et vous vivrez. Quelque temps du moins. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Stirling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie. Mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté!
Comment ce film a-t-il été reçu dans l'Écosse contemporaine?
Ah, il a été très très bien reçu. Braveheart date de 95. Il a d'ailleurs servi de toile de fond finalement en 97, puisque la bataille de Stirling, c'est donc 1297, au référendum sur la dévolution qui aura lieu donc en septembre 1997 et qui sera la première grande étape vers la route de l'indépendance. Alors c'est une bataille qui effectivement est importante parce qu'elle permet de cristalliser la force du sentiment national avec évidemment la prudence qu'il convient de, pour utiliser ce terme, mais d'un mouvement qui n'est pas simplement celui des féodaux. D'ailleurs, nombre de féodaux ne participeront pas, et on l'entend bien d'ailleurs, cette critique des nobles. C'est un mouvement qui s'appuie sur les forces populaires et sur l'identité écossaise face à l'occupant anglais. L'aventure sera brève. Stirling, 1297, l'année suivante, Wallace est battu à Falkirk.
Édouard Ier est revenu du continent où il aidait ses alliés flamands contre les Français.
Exactement.
Urgence, je rentre chez moi.
Urgence, et par conséquent, donc, Wallace en tant que tel disparaît. Il sera pris et exécuté en 1305, mais déjà, donc, son souvenir à ce moment-là n'est plus le plus important.
Ça, c'est en fait, son supplice atroce qui peut-être contribue aussi à ce souvenir, puisqu'il est pendu, décapité, coupé en quartiers qui sont envoyés dans les grandes villes d'Écosse. Il s'agit vraiment d'humilier l'orgueil écossais, là.
Oui, mais en même temps, Édouard Ier s'est trompé. Il en a fait un véritable martyr. Comme souvent. Et en fait, la légende de Wallace, elle date véritablement du 19e siècle. Il a été grandi par les Victoriens. Et ce film contribue effectivement à le rendre extrêmement sympathique et populaire. Et à populariser aussi, d'ailleurs, la fameuse couleur bleue que les Romains avaient déjà repérée sur le visage des guerriers écossais. En agissant ainsi, en levant donc l'étendard de la liberté, William Wallace ouvre la voie donc à celui qui va véritablement incarner la lutte nationale, qui lui est un membre de la famille royale, qui est Robert Bruce, qui va avoir le rôle, en reprenant donc la régence d'Écosse, de magnifier en quelque sorte la résistance aux Anglais, dont à un moment il a été d'ailleurs assez proche, et puis donc il se fait couronner de façon un peu rapide à Scone, la fameuse vieille ville des couronnements écossais, en 1306. Et là, il va effectivement mener la guerre, qui s'achèvera qu'en 1328, contre les Anglais.
Et quand on s'intéresse au développement de la conscience nationale de l'Écosse, c'est notre curiosité d'aujourd'hui, on doit prêter attention à la fameuse déclaration d'Arbroath qui remonte à 1320 et qui est signée par les barons de Robert, qui semble avoir été rédigée par l'abbé d'Arbroath, grand érudit et juriste consommé.
Cette déclaration est importante parce qu'elle se situe d'abord quelques années après la victoire de Bannockburn que j'évoquais tout à l'heure, de 1314. Elle aussi, donc, point de repère pour notre référendum de 2014. Et puis, parce qu'elle se situe dans un contexte politique et idéologique important. C'est une déclaration qui a été faite par les barons qui estiment donc parler au nom du peuple et de l'Écosse. Et soutiennent donc la volonté de Robert Bruce de s'émanciper de l'Angleterre, à une époque où l'Angleterre d'ailleurs connaît une sorte de déclin du pouvoir royal sous Édouard II. Il le place effectivement en héros, sous condition que jamais il n'accepte la tutelle anglaise.
Voici d'ailleurs un extrait de cette déclaration qui est vraiment digne de figurer dans une anthologie des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si Robert Bruce se détournait de l'œuvre qu'il a commencée, souhaitant que nous ou notre royaume se soumette au roi ou au peuple d'Angleterre, immédiatement, nous ferons notre possible pour le chasser comme étant notre ennemi et traître à ses droits et aux nôtres. Car aussi longtemps que 100 parmi nous seront vivants, nous ne consentirons jamais, en aucune manière, à nous soumettre au gouvernement des Anglais, car ce n'est pas ni la gloire, ni les richesses, ni les honneurs pour lesquels nous nous battons, mais la liberté seulement, que nul homme digne de ce nom n'accepte de perdre, sinon avec sa vie. J'imagine que ce texte va être assez largement commenté, peut-être même dans les écoles, à l'occasion du prochain référendum sur l'autonomie ou l'indépendance, à vrai dire, de l'Écosse.
Absolument, parce que nous sommes presque un siècle après la Grande Charte d'Angleterre. La Grande Charte d'Angleterre, c'est un partage du pouvoir entre
Carta
le roi,
Magna.
Ses barons, voilà, le roi, ses barons et l'Église, plus effectivement les représentants des villes et des comtés. Ici, nous avons en plus la première forme de contrat social, c'est-à-dire qu'on peut changer le roi s'il n'accomplit pas ce que le peuple veut, c'est-à-dire maintenir l'indépendance et la liberté. Donc c'est une étape très importante dans l'évolution, non seulement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais de la conception même de la gouvernance dans le monde encore aujourd'hui.
C'est le moment, peut-être le plus marquant de l'indépendance de l'Écosse. Ensuite, progressivement, on va aller vers une réunion du royaume d'Écosse et du royaume d'Angleterre dans des conditions qui tiennent un peu au hasard dynastique.
C'est vrai qu'après donc, la dynastie des Bruce va succéder donc, des cousins, une branche cadette de la famille des Stuart, qui va très longtemps batailler encore contre l'Angleterre au travers de péripéties dynastiques extraordinairement compliquées, souvent dramatiques.
Marie Stuart, donc,
Marie Stuart, évidemment, est un des exemples les plus connus, mais pas le seul. Et puis finalement, c'est le hasard dynastique qui va présider à la réunion des deux royaumes, ou en tout cas des deux couronnes, parce qu'Élisabeth Ière, donc la grande souveraine des Tudors, n'a pas d'héritier.
La Reine Vierge.
La Reine Vierge, c'est moi le seul nom qu'on lui donne, dont elle se pare, va laisser donc le trône d'Angleterre à celui qui est son cousin, le fils de Marie Stuart, mais un cousin protestant, Jacques Ier, qui en 1603 donc va devenir roi d'Angleterre. Et pour justement bien montrer que ce n'est ni une réunion, ni une fusion, mais en quelque sorte une sublimation, il va inventer donc en 1604 le concept de Grande-Bretagne. Chacun des royaumes, l'Écosse d'un côté, l'Angleterre de l'autre, conservant sa spécificité.
Il est Jacques VI. En Écosse et Jacques Ier en Angleterre.
Voilà. Et comme il n'y a pas eu d'autre Jacques, il est le premier Jacques de Grande-Bretagne. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les deux drapeaux de l'Angleterre et de l'Écosse vont fusionner pour constituer le premier Union Jack.
Il souhaiterait l'union des deux royaumes avec, d'ailleurs, des formules assez pittoresques, puisqu'il explique que les Anglais et les Écossais doivent être comme deux jumeaux dans un même ventre, ne formant plus qu'un seul État. Il ajoute « Dieu nous a placés ensemble dans une île, entourée par la mer et indivisible ». Par nature, ça c'est toujours vrai. L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Je suis l'époux et l'île de Grande-Bretagne tout entière est mon épouse légitime. À Dieu ne plaise que moi, souverain chrétien, j'ai deux femmes comme un païen polygame. Il avait l'esprit imaginatif.
L'esprit imaginatif et une pensée politique assez profonde parce que ce rapprochement des couronnes, cette union éventuelle des royaumes conforte ses droits à lui. Souverain, donc sur l'ensemble du pays, et conforte aussi d'ailleurs, quand il parle de roi chrétien, il ne précise pas d'ailleurs exactement la religion à laquelle il fait allusion, puisque l'Angleterre, donc depuis Henri VIII et Élisabeth, est anglicane, alors que l'Écosse est presbytérienne, deux formes relativement distinctes tout de même du protestantisme. Il assume cette chrétienté au service de la monarchie.
Mais dès ce XVIIe siècle commençant, Jacques Ier, on trouve des réactions des deux côtés que certains auteurs contemporains ont eu le goût de comparer aux réactions en face de l'Union européenne et de l'euro. Je veux dire que les Écossais ont redouté d'être colonisés par l'Angleterre, qui était plus riche, plus puissante économiquement, voire même annexée comme l'Irlande ou comme la Bretagne. On citait beaucoup cet exemple, comme la Bretagne par la France. Et de l'autre côté, les Anglais craignaient de voir fondre sur eux un flot d'Écossais faméliques qui viendraient prendre les places et inonder le marché du travail. Est-ce que cette comparaison vous paraît valide ou purement fantasmée ?
Elle est en partie fantasmée, mais il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, notamment quand un personnage important, qui était le précepteur, en quelque sorte, du roi George III, Lord Bute, qui était un Écossais d'une vieille famille apparentée aux Stuart, est devenu Premier ministre, ça a été un déchaînement anti-écossais. Et il faut bien voir que beaucoup d'Écossais sont venus chercher du travail ou pour les élites trouver des titres et des terres en Angleterre. L'inverse est vrai. Les Anglais ont été perçus par les Écossais comme des envahisseurs, alors pas forcément comme des colonisateurs, car l'Écosse était trop fière pour se sentir colonisée. Mais le drame de l'Écosse, c'est finalement que l'union des couronnes leur a été défavorable, puisque leur roi légitime est parti à Londres, et que toutes les révoltes qui se sont succédées, qu'on appelle les révoltes jacobites, pour défendre les Stuarts au XVIIe et XVIIIe siècle, au fond, n'étaient que pour rétablir un souverain écossais à Londres. Les Écossais se sont rendus très vite compte que c'en était fini de leur indépendance, que les Stuarts ou les autres prétendants ne résideraient plus jamais à Édimbourg. Et c'est ce qui explique en partie, ce n'est qu'une des raisons, l'union de 1707 qui est fondée sur l'intérêt et pas seulement sur des représentations, mais véritablement sur des intérêts partagés.
Que contient cet acte d'union essentiel de 1707 qui ouvre une période qui est toujours ouverte aujourd'hui et qui pourrait éventuellement se clore si le référendum prochain, le référendum de septembre, aboutissait à l'indépendance de l'Écosse.
Effectivement, c'est le texte à caractère constitutionnel, puisqu'il n'y a pas de constitution écrite au Royaume-Uni, mais auquel on peut se référer, avec d'ailleurs, et il faut le souligner tout de suite, une double interprétation. Pour les Écossais, c'est un traité entre deux États égaux, qui négocient donc leur commune participation à la Grande-Bretagne. Pour les Anglais, c'est une décision de leur Parlement qui a validé la décision du Parlement d'Édimbourg et c'est une loi. Donc, Act of Union pour les Anglais, Treaty of Union pour les Écossais. Déjà, d'ailleurs, on voit bien la différence entre les deux.
Qu'est-ce qu'il y a dans cet acte d'union ?
D'abord, la création d'un royaume uni de Grande-Bretagne à l'époque.
Voilà l'expression.
Voilà, Royaume-Uni. Donc, un même souverain, dynastie protestante, puisque donc avec l'élimination de la branche catholique des Stuarts, c'est donc les Hanovres, les ancêtres de la reine actuelle, qui vont monter sur le trône en 1714, hein, il y a déjà trois siècles, et la possibilité donc de créer un parlement commun, ce qui est quand même pour les Anglais essentiel, avec une représentation écossaise. Le parlement d'Édimbourg disparaît.
Il faudra attendre la fin du XXe siècle, c'est-à-dire quelques années, en 1997, pour que ressurgisse
280 ans d'absence.
Ce Parlement.
Et d'ailleurs, quand la reine va venir, on va dire, le Parlement est réouvert après 280 ans d'absence. Pour les Écossais, qu'est-ce qu'il y a ? Préservation de leur identité, l'Église, le système juridique, le système d'éducation. Et il y a surtout la possibilité d'accès au marché anglais. Non seulement le marché anglais européen, mais surtout le marché impérial. Et ça, c'était essentiel pour les Écossais de pouvoir avoir accès aux richesses de ce commerce transatlantique et au-delà, d'ailleurs, même vers l'Asie.
Aujourd'hui encore, l'argument économique parmi les adversaires de l'indépendance de l'Écosse est encore un argument puissant et agité constamment.
Bien sûr. Alors d'abord, il y a les intérêts qui sont directement liés au fonctionnement du Royaume-Uni. L'Écosse est largement subventionnée par le Royaume-Uni, donc par l'Angleterre essentiellement. Et beaucoup disent que la perte de ces subventions sera déterminante pour l'avenir de l'Écosse éventuellement indépendante et conduira à son appauvrissement.
Osborne, le chancelier de l'échiquier, est venu le rappeler avec une rudesse qui a choqué l'opinion écossaise.
Oui, et même une condescendance paternaliste qui rappelle ce qui était dit d'ailleurs dans le premier interview, parce que les Écossais savent qu'ils ne pourront pas vraiment fonder une monnaie nationale solide, que la participation à l'euro dépend de l'accord des autres États européens. Et donc, ils souhaiteraient une union monétaire.
Gardée à livre sterling. Gardée
à livre sterling. Et pour le moment, donc, Osborne l'a rappelé, mais les milieux d'affaires le soulignent, il n'en est pas question. C'est un moyen de faire pression qui est effectivement un peu condescendant et en tout cas très mal reçu par les Écossais.
La reine Anne Stuart adresse un message au Parlement qui existe encore pour très peu de temps. Au Parlement d'Édimbourg, l'Union préservera votre religion, vos libertés, vos propriétés. Elle supprimera l'animosité et les jalousies. Ça, c'est wishful thinking. Elle supprimera les animosités et les jalousies entre nos deux peuples. Elle augmentera vos forces et votre prospérité. Par elle, la Grande-Bretagne sera à même de résister à ses ennemis, de défendre partout la cause du protestantisme et d'assurer les libertés de l'Europe.
Absolument. N'oublions pas que nous sommes à ce moment-là dans la guerre de succession d'Espagne et que l'Angleterre, proprement dite, est engagée contre la France. Donc il fallait fermer, comme on dit, la porte de derrière. L'Union donc préserve l'avenir d'un royaume uni qui est promis à un très très bel avenir et que le traité d'Utrecht, d'ailleurs, consacrera dès 1713. Donc c'est un mariage de raison, largement d'ailleurs financé par l'or anglais, négocié au niveau des élites plus qu'au niveau des peuples, mais qui a quand même fonctionné pendant plus de trois siècles.
Non sans laisser vivace un sentiment de frustration, de nationalisme malmené. Il y a le très grand poète écossais Robert Burns qui en est l'expression historiquement la plus importante. On observe que Alex Salmond, l'actuel First Minister, le Premier ministre écossais, ne manque pas d'ouvrir la session du Parlement avec un poème de Robert Burns. C'est donc tout à fait emblématique. Et en voici un de grande portée qui remonte à 1791 et qui s'appelle « Such a parcel of rogues », un tel tas de fripouilles.
Fair wealthy, our Scottish fame, fair wheel. Ancient glory, fair will even tea, the Scottish name say famed in martial story. New Sargrins are the Solway sands and Tweederins to the ocean, to mark where England's province stands. Such a parcel of rogues in a nation. Oh, would or I had seen the day that treason thus could sell us. My old grey heed had lain in clay with Bruce and loyal Wallace, but pith and power till my last hour I'll make this declaration. We're bought and sold for English gold. Such a parcel of rogues in a nation.
Poème qui est chanté et interprété ici par Evan McColl en 1961. Alors, il faut que je traduise ce poème illustrissime en Écosse de Robert Burns. Vous allez voir la tonalité. « Fameuse Écosse, je veux te faire mes adieux, ainsi qu'hélas à notre antique gloire, incluant dans ses adieux ce nom d'Écossais que célébrait toute une martiale histoire. La Sarque se perd désormais dans les sables du Solway, la Tweed à la mer mêle ses ondes. » Et les rivières Tweed et Sarque forment à l'est et à l'ouest la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. La nation, écoutez bien, la nation est entre des mains immondes. Plutôt qu'être encore ici lorsqu'on nous trahit, j'aurais voulu que la mort me terrasse, que mon chef aux cheveux gris dans le sol soit enfoui auprès de Bruce, le roi là, et du loyal Wallace. C'est ce Wallace que nous avons évoqué tout à l'heure. Jusqu'à mon dernier soupir, je ne ferai que gémir et hurler à la face du monde. C'est avec l'or des Anglais que nous fûmes achetés, la nation est entre des mains immondes. Ce n'est pas tendre.
Ce n'est pas tendre et c'est sans doute le reflet d'une partie de l'opinion écossaise. C'est celle des Highlanders, hein, ceux qui ont été les plus tardifs et peut-être les plus rebelles face à la présence donc anglaise et face à l'Union, même si le phénomène de l'Union a entraîné pas mal de rejets. Mais il faut se rappeler, et ce texte donc se situe à la fin du XVIIIe siècle, que pendant le siècle des Lumières, il y a eu une très grande brillance écossaise.
Les universités très...
Les universités, qui datent d'ailleurs pour les quatre d'entre elles donc, du XVe ou du XVIe siècle, qui attestent d'ailleurs du très haut niveau d'éducation. Encore à la fin du XVIe siècle, on a imposé la création d'écoles partout. Donc le niveau d'alphabétisation et d'instruction est élevé. Et puis il y a eu une très grande présence donc, d'esprit... universel.
On pense à David Hume, on pense aussi à Adam Smith, par exemple.
Adam Smith, on pense à James Watt aussi, hein, l'inventeur de la science appliquée. Donc il y a toute une série, et on pourrait citer beaucoup d'autres noms, de gens qui ont contribué à faire donc d'Édimbourg et de Glasgow, qui ont été les deux grands centres donc, de ces lumières, un pôle de la culture européenne. Mais paradoxalement, c'est un pôle universel et pas un pôle écossais. D'ailleurs, eux-mêmes s'appelaient les North Britons, les Britanniques du Nord. Ils ne s'appelaient pas écossais, même si Madame Thatcher, en voulant récupérer l'héritage idéologique d'Adam Smith, a dit que c'était l'Écosse qui avait façonné le thatcherisme. Les Écossais de l'époque se sont pensés plutôt comme les membres d'une grande communauté intellectuelle européenne.
Donc leur gloire, à court terme en tout cas, n'a pas servi les tentations de retour à une indépendance écossaise.
Non. C'est par contre des gens comme Robert Burns ou Walter Scott, hein, qui à partir de la fin du XVIIIe siècle, on pourrait aussi penser à Macpherson et ses fameux poèmes d'Ossian.
Ce sont des poèmes forgés en réalité.
Tout à fait. Ce sont
c'est un canular.
C'est un canular.
À immense effet.
À immense effet, dont Napoléon d'ailleurs a été extrêmement...
Féru.
Féru et enthousiaste, qui crée justement cette mouvement des nationalités dans l'esprit avant qu'ils ne deviennent dans la politique. Il faut se rappeler que les pays celtes, à ce moment-là, l'Irlande, déjà avant le grand mouvement du 19e, est agitée par des mouvements celtes et nationaux importants, à connotation d'ailleurs aussi protestante que catholique. Et puis donc les Highlands d'Écosse.
Alors où est la langue ? Où est la langue ? Est-ce qu'il y a des oppositions langagières qui restent ?
Alors, à l'époque, on l'estime à 10-15% à peu près. Mais qui survit ? Alors, il y a aussi d'autres dialectes, d'ailleurs scandinaves, dans les archipels du Nord, dans les îles Orcades et dans les îles Shetland. Je précise d'ailleurs que si l'indépendance est prononcée le 18 septembre, le 25 septembre, il y aura un référendum dans ces archipels pour savoir s'ils veulent participer à la Nouvelle-Écosse, rester dans le Royaume-Uni ou même devenir indépendants. Ce qui paraît très peu probable.
Vous évoquiez, François-Charles Mougel, le nom de Walter Scott, évidemment extrêmement prestigieux, et qui s'identifie à la spécificité d'un romantisme écossais. Il faut s'y arrêter un instant.
Alors c'est lui qui a largement contribué d'abord à réhabiliter l'image de l'Écosse, cette Écosse traditionnelle, en inventant d'ailleurs un certain nombre de compléments aux traditions, notamment les tartans. C'est lui qui a fait venir le roi George IV, premier souverain donc à venir à Édimbourg, et George IV a été enthousiaste. Et ça redonnait donc une légitimité, une profondeur donc à l'identité écossaise qu'elle avait perdue en fait depuis plus d'un siècle.
Rappelez-nous ce que c'est que le tartan.
Alors le tartan, c'est donc un tissu dont les couleurs sont distinctives selon les clans. Pendant très longtemps, ils ont été relativement peu nombreux, ces tartans, assez indistincts. Ils ont été interdits au milieu du XVIIIe siècle après les révoltes jacobites. Et puis, ils ont été réhabilités donc, au début du XIXe. Et ensuite, ils sont servis à identifier tous les clans. Et aujourd'hui encore, on en crée toute une série, tout aussi brillants les uns que les autres, qui servent effectivement donc, de repères. Mais il faut savoir que c'est une Écosse reconstruite. Ce qui est important de souligner aussi dans l'affaire des tartans, c'est le rôle de la monarchie. Parce que, au-delà du voyage de George IV en 1822, c'est l'achat du château de Balmoral, sa reconstruction par Victoria et Albert, le fait d'ailleurs que la reine y passe d'ailleurs toutes ses vacances d'été, qui a donné donc à l'Écosse cette image de conservatisme, de tradition, qui permet aussi d'une certaine manière d'occulter son côté rebelle.
On voit beaucoup en photo le prince Charles, toujours héritier, avec un kilt.
En kilt, mais il ne faut pas oublier que c'est un élément de légitimation d'un pouvoir qui est un pouvoir essentiellement londonien, mais qui a tout de même son influence. Et dans le projet de constitution de l'Écosse indépendante, il est prévu de maintenir la monarchie et de se référer au modèle de Jacques Ier que vous évoquiez tout à l'heure, union des couronnes. On n'aurait plus l'union des royaumes, des peuples, mais on aurait l'union des couronnes. Ce qui permettrait d'ailleurs, au passage, de rassurer tous les légitimistes qui vivent au nord de la frontière.
Walter Scott joue un rôle très très important dans l'élargissement de ce romantisme écossais, de son succès, notamment dans l'Europe continentale. Et symboliquement, d'ailleurs, son héros, un des plus fameux héros, Quentin Durvar, va se battre du côté de Charles le Téméraire.
Il y en a bien d'autres. Hein. Il y a Waverley, il y a
son premier grand succès,
Ivanhoé, comme on l'appelle chez nous. Donc tous ces héros qui vont d'ailleurs créer le genre du roman historique et développer cette identité écossaise au travers des grands faits d'histoire. Mais c'était un moyen aussi de légitimer l'Union au XIXe siècle, ce qui porte l'efficacité de l'Union et qui explique l'attachement des Écossais à l'Union. C'est le protestantisme, c'est aussi l'unionisme parce qu'ils y trouvent leur intérêt. N'oublions pas que l'Écosse est un des piliers de la révolution industrielle.
Avec un grand développement, elle sort d'une pauvreté qui était séculaire.
Mais qui avait déjà commencé à s'ouvrir au XVIIIe avec le commerce colonial et qui trouve au XIXe siècle dans le charbon, dans la sidérurgie, dans le textile, dans les chantiers navals, bien entendu, donc des points d'application particuliers. Donc l'unionisme est utile. Et puis il y a aussi la composante militaire. L'Écossais est un soldat. On l'a dit, c'est un guerrier, c'est un soldat. Et la conquête impériale, l'administration impériale sont très fortement peuplées par des Écossais. Donc ça leur donne l'impression qu'ils participent pleinement de l'Union. On se rappelle ces défilés, même dans les plaines des Indes, des armées britanniques avec les bagpipes qui partent en avant, sans armes, mais avec les cornemuses, en kilt, pour montrer leur palant et leur musique célèbre, la supériorité des armes britanniques. Donc l'identité Écosse, armée, empire est un élément important jusqu'à 14. Après, ça change.
C'est le temps aussi, ce 19e siècle, du développement de tout un bric-à-brac de folklore plus ou moins simple ou simpliste. Il y a les fantômes écossais, fantômes à vendre. En voici un dans la bouche d'un journaliste de la BBC. C'est un extrait du Monde insolite de France Culture, le 1er décembre 1972. Voilà un fantôme.
Les studios de la BBC à Édimbourg sont dans un immeuble qui est presque deux siècles d'âge. L'immeuble est dans le centre de la ville renommée The New Town. Et pendant toutes les années qui existent, c'est une maison privée, une salle de concert, une boîte de nuit, et maintenant, c'est le broadcasting. Dans cette ancienne ville, il y a beaucoup d'histoires, des événements étranges et des fantômes. Il n'y a pas de personne dans la BBC qui a vraiment vu la fantôme de la BBC. Mais après minuit, sur les escaliers qui suivent de la studio principal de musique, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que quelqu'un le suive sur l'escalier de haut en bas. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être un fantôme syndicaliste qui objecte que personne travaille après minuit. C'est possible. Mais moi, je préfère, j'ai mieux pensé qu'il y a un fantôme à la BBC était un fantôme de l'Edinburg éternel.
Alors, François-Charles Mougel, je ne sais pas si les fantômes sont nationalistes. Leur développement est concomitant avec une vraie émergence de cette sorte de patriotisme renouvelé, en dépit de tous les avantages économiques que l'Écosse trouve à son appartenance dans le Royaume-Uni.
Petit mot sur les fantômes. Effectivement, l'un des plus connus, c'est celui de Macbeth qui hante le château de Glamis, d'où était originaire la reine-mère, hein, celle qui est morte en 2002. Bon, pour revenir à cette histoire donc de retour du nationalisme, il faut savoir qu'il apparaît au cœur du 19e siècle. La première association pour la défense des droits de l'Écosse, c'est 1853. C'est concomitant de ce qui va être l'unité italienne, l'unité allemande, des mouvements qui se passent évidemment en Irlande. Et c'est pas indifférent.
Le printemps des peuples.
Le printemps des peuples, absolument.
Au mi-temps du 19e.
Et puis, c'est aussi la naissance donc d'une composante forte de l'identité britannique, c'est les mouvements pour régler la question sociale. Le travaillisme est né en Écosse de Keir Hardie dès la fin du 19e siècle, avant de s'imposer sur la scène anglaise. Et le libéralisme lui-même, qui était la grande force politique et partisane de l'Écosse au 19e, doit beaucoup à la présence écossaise. D'ailleurs, au tournant du 20e siècle, beaucoup de premiers ministres sont issus d'ailleurs d'Écosse.
Le premier ministre travailliste s'appelle Ramsay MacDonald.
Voilà, alors qui va devenir effectivement premier ministre dans l'entre-deux-guerres, mais Campbell Bannerman, Balfour sont des Écossais. Et Keir Hardie, dont j'ai cité le nom, a lié d'ailleurs la question politique, celle de la naissance du travaillisme, ce socialisme original à l'anglaise, à la britannique devrais-je dire plutôt, à la question du nationalisme. Alors, parfait loyalisme pendant la guerre de 14, mais dès la fin de la guerre, la question nationale est posée. Une association se développe. Il y a d'ailleurs aussi un mouvement politique, les Clydesiders, ces ouvriers donc des chantiers navals de la Clyde, qui a été d'ailleurs accusé par le gouvernement central d'être des suppôts de la révolution bolchevique. Et c'est vrai que leur discours était très fortement maximaliste. Donc le discours nationaliste doit aussi donc prendre en compte toutes ces nuances.
Est-ce qu'il y a une influence de ce qui se passe, des événements dramatiques de l'Irlande, de la guerre contre les Anglais, puis la guerre civile irlandaise ?
Et il est clair que le cas irlandais, et notamment donc le traité de 1920 et la création de l'État libre, c'est un exemple important pour les Écossais. Alors, ils ne veulent pas, eux, de violence, ils ne veulent pas d'une partition brutale, ils veulent une reconnaissance de leur naissance. L'Irlande n'a jamais été un État. Même si elle a été une nation, mais même si ce n'est pas une nation unie, elle a été divisée. Alors que pour les Écossais, ils ont eu un État et leur nation est unie. Donc ils veulent qu'on renégocie l'union sur les termes de la parité. Et ça va être la naissance, dans les années 20, des premiers partis nationalistes et la création, donc en 1934, du Scottish National Party. Petit parti, de peu d'influence.
Mais aujourd'hui,
mais aujourd'hui alors un parti qui représente un nombre considérable de militants et de sympathisants. Si on admet que le Scottish National Party est le fer de lance du mouvement indépendantiste, c'est pas loin de 40 à 45% aujourd'hui de l'électorat écossais. Alors que dans l'entre-deux-guerres, c'est quelques centaines d'intellectuels ou de militants nationalistes, de tous bords d'ailleurs, sociaux et idéologiques, mais c'est un mouvement relativement confidentiel.
C'est le temps aussi, cet entre-deux-guerres, où ressurgit cet intérêt pour le poète Robert Burns, dont nous avons entendu tout à l'heure un poème. En voici un autre, la ballade de Jean Grindorge, qui est lue par Vicky Messica dans les samedis de France Culture, le 1er juillet 1972. C'est un poème qui évoque le whisky, très probablement, mais qu'on peut prendre aussi, Jean Grindorge, comme une métaphore de l'Écosse opprimée par l'Angleterre et qui néanmoins ressurgit avec sa pleine vitalité.
Il y avait trois rois à l'Orient. Trois rois très puissants et très hauts. Et ils ont fait d'un serment solennel que Jean Grindorge allait mourir. Prenant une charrue, ils l'ont enfoui, ont mis des mottes sur sa tête, et ils ont fait un serment solennel que Jean Grindorge était bien mort. Mais le gai printemps vint tout en douceur, et les averses commencèrent. Jean Grindorge se leva de sa tombe et les surprit tous, durement. Vinrent les soleils brûlants de l'été, et il grandit épais et fort, la tête de dard pointue bien armée, pour que nul ne lui fît de mal. Mais l'automne arriva, grise et placide. Alors il blêmit et pâlit. Son corps fléchissant, sa tête penchée disait sa force défaillante. De plus en plus, il perdit ses couleurs, il prit le ton de la vieillesse. Et ses ennemis alors commencèrent à montrer leur haine mortelle. Ils saisirent un fer long et tranchant et le coupèrent aux genoux. Puis, sur un chariot, ils l'attachèrent comme un faussaire scélérat. À terre, ils le couchèrent sur le dos et le frappèrent sans pitié. Ils l'exposèrent au vent de tempête, le tournant et le retournant. Ils remplirent une fosse profonde et obscure d'eau jusqu'au bord. Ils y précipitèrent Jean Grindorge, le laissant flotter ou couler. Ils le répandirent sur le plancher pour le faire souffrir encore, et comme il montrait toujours de la vie, ils le jetèrent en tous sens. Ils ont séché sur la flamme brûlante la moelle même de ses os. Mais un meunier fut plus cruel que tous. Il l'écrasa entre deux pierres. Et ils ont pris de son cœur le sang même, et ils l'ont bu tout à la ronde, et toujours plus et plus ils en buvaient, et plus surabondait leur joie. Jean Grindorge était un héros hardi, plein d'une audace généreuse, car si seulement vous goûtez son sang, il accroîtra votre courage. Il vous fera oublier vos malheurs. Il vous donnera plus de joie. Il fera chanter le cœur de la veuve, même avec une larme aux yeux. Buvons donc en l'honneur de Jean Grindorge, chacun de nous, le verre en main. Et puisse sa famille glorieuse toujours vivre en la vieille Écosse.
On est ici, François-Charles Mougel, on est ici à la fin du XVIIIe siècle. Évidemment, il s'agit au premier chef du whisky, qui est aujourd'hui encore la deuxième richesse de l'Écosse après le pétrole. Et en même temps, ce n'est pas une manière d'évoquer l'Écosse opprimée et qui néanmoins toujours ressurgit avec sa pleine force.
Absolument, c'est la parabole. Et le romantisme, au fond, est un point de départ de cette renaissance de l'identité. Il y a ce paradoxe fondamental, c'est que plus l'identité britannique est en débat, et tend à décliner, notamment à partir du début du XXe siècle, et plus l'identité écossaise remonte. Parce que chaque fois, tant que le mariage était, si j'ose dire, bénéfique aux deux, et tant que la prospérité était bénéfique aux deux, tout allait bien. Mais après, notamment à partir de la crise de 1929, et même après 1945, l'impression qui a prévalu nord de la frontière, c'est que l'Écosse était en permanence sacrifiée. C'est-à-dire qu'on lui ôtait son industrie, on lui ôtait son indépendance, on lui enlevait sa capacité de décision sans lui donner de compensation. L'impression a atteint son sommet quand Madame Thatcher a présidé à la désindustrialisation, aux privatisations, quand elle leur a imposé, avant l'Angleterre d'ailleurs, la fameuse poll tax, un système de capitation, c'est-à-dire qu'on divisait les impôts locaux par le nombre d'habitants sans tenir compte de leur propriété ni de leurs revenus, et ça aboutit donc à des protestations majeures. Et les Écossais se sont donc rendus compte qu'il fallait qu'ils prennent leur destin en main. Et la conjonction positive pour l'Écosse a été que c'est à ce moment-là que le Parti travailliste, sous la direction d'ailleurs de plusieurs dirigeants d'origine écossaise, le premier d'ailleurs étant John Smith,
qui est mort prématurément,
voilà, laissant la place à Tony Blair, qui n'est pas écossais mais qui est né et a été éduqué à Édimbourg, et puis un authentique écossais, Gordon Brown, ces gens-là ont compris donc que l'avenir de leur propre parti, l'avenir de l'identité du Royaume-Uni et l'avenir même de l'Écosse dépendait d'un véritable projet. Et ça s'est incarné sous la forme de cette dévolution qui, après l'échec d'un référendum d'autonomie en 1979, a été votée, précisément d'ailleurs 700 ans après l'aventure de William Wallace en 1997. Mais pour beaucoup de dirigeants britanniques, on devait rester là. L'habileté de Salmond, mais qui s'appuie sur le programme de son parti, c'est de poser la question de l'indépendance. Et il a pu le faire une première fois, mais de façon relativement timide en 2007, et puis ayant véritablement une majorité au Parlement d'Édimbourg à partir de 2011. Et il a contraint le gouvernement Cameron d'organiser ce vote dont nous allons avoir dans très peu de semaines les résultats.
Et qui divise profondément l'opinion écossaise. J'observe qu'il y a des figures emblématiques qui sont d'un côté et de l'autre avec beaucoup d'éclat. D'un côté, Madame Rowling, l'auteur du désormais immortel Harry Potter, qui a donné beaucoup d'argent au profit du camp du non, c'est ceux qui souhaitent que l'Écosse demeure dans le Royaume-Uni. Et puis en face, on cite toujours Sean Connery, qui lui est une figure emblématique du souhait de l'indépendance. D'ailleurs, j'ai observé que James Bond était en partie écossais, vous le confirmez, c'est professeur Mougel ?
Exactement. Mais Madame Rowling, qui vit à Édimbourg, n'est pas véritablement une écossaise de souche.
Ah, ça explique tout. Alors.
Le débat, il se pose pour l'Écosse, il se pose aussi pour le Royaume-Uni, car si l'indépendance gagne, que va-t-il se passer pour le restant du Royaume-Uni ? Il se pose aussi pour l'Europe, parce que si jamais, selon les décisions qui seront prises à Bruxelles, l'Écosse doit négocier son adhésion, il n'est pas interdit d'imaginer que les Français aient à se prononcer par référendum sur l'admission d'un nouvel État. Après tout, ça nous a été promis dans les réformes constitutionnelles récentes.
Et puis, comme il faut une unanimité à Bruxelles, l'Espagne, évidemment, préoccupée par la Catalogne,
va être... Oui, il n'y a pas qu'elle. Il y aurait la Belgique, il peut y avoir d'autres États. Donc, c'est un problème majeur. L'Écosse éclaire l'Europe d'aujourd'hui.
Belle conclusion, je vous en remercie. François-Charles Mougel, vous avez publié tout récemment une belle histoire du Royaume-Uni de 1900 à nos jours, chez Perrin en 2014. L'Écosse y tient une part importante ?
C'est un fil rouge, ce n'est pas le premier élément de l'histoire, mais c'est un élément fondamental que l'on retrouve dans tous les chapitres.
L'année dernière, en 2013, vous avez également publié une histoire des relations internationales de la fin du XVIIIe siècle à l'aube du troisième millénaire. Là, l'ouverture est plus large. Mais on y retrouve l'Écosse.
Mais la problématique des nations, que l'on croyait oubliée, que dans nos enseignements, il y a quelques années, on considérait comme dépassée, est aujourd'hui au cœur des problèmes. En Europe, au sein du Royaume-Uni, mais aussi dans l'ensemble du monde. Donc l'exemple écossais, c'est une résurgence de ce mouvement national et pas simplement des nationalités à l'échelle du monde entier.
Vous pourrez trouver, vous le savez, une bibliographie complète, plus complète sur notre site avec les références, les documents sonores que nous avons utilisés. Et bien sûr, vous pourrez également réécouter cette émission et la télécharger pour la conserver dans l'éternité. Samedi prochain, nous parlerons de l'actualité de Guillaume Apollinaire avec Laurence Campa. Ce destin est évidemment marqué par la Grande Guerre dont actuellement est évoqué le centenaire. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guéroux, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec Vincent René à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, avec Amélie Briand-Lejeune pour les Archivinas. Et dans quelques instants, vous allez, comme chaque samedi, retrouver Dominique Rousset pour l'économie en question avec ses invités.